Bonjour, vous êtes bien sur FM+, le 91.0 à Montpellier. Vous avez reconnu l'indicatif et vous rappelez que c'est l'indicatif de l'émission que je consacre au Festival de Radio France Occitanie-Montpellier, donc qui se tient dans l'Occitanie du 9 au 27 juillet. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien nous allons tout simplement, comme la dernière émission, la précédente émission, parler avec un pianiste que j'adore plus que tout, que je vous fais écouter très périodiquement quand il sort des nouveautés. Il s'agit du pianiste argentin Nelson Gerner, qui était tout à fait désolé que les Français aient battu les Argentins, évidemment. Mais comme il est un peu français, il ne vit pas en France, mais enfin, il est un peu français, il a trouvé quand même que c'était bien que nos petits Français deviennent champions du monde. Donc voici Nelson Gerner, immense pianiste, très délicat, très simple, et qui ne déborde pas dans ses expressions. Donc nous allons l'écouter, il a accepté de nous parler. Alors comme cette interview est un peu longue, que je ne peux pas vous faire tout écouter, je vous promets qu'à la rentrée, nous l'écouterons en entier avec d'autres morceaux musicaux. Donc voici Nelson Gerner, qui nous parle donc de ce récital qu'il a réalisé, comme les émissions précédentes, le mardi 17 juillet. Là, c'était non pas à 18h comme Michel Dabourteau, mais c'était évidemment à 21h, dans le même lieu, le Quorum de Montpellier. Et c'était donc le deuxième concert du jour. Voici donc Nelson Gerner. Nelson Gerner, vous avez vu en 2015, c'est ça?
En 2015, oui. Voilà. Oui, à la salle Pasteur.
Voilà. Alors, ce que j'aimerais que l'on parle, depuis qu'on ne s'est pas vu, c'est par exemple de vos enregistrements. Alors, je trouve, si je peux faire juste une remarque, que j'ai l'impression que vous n'avez pas de politique particulière sur les enregistrements. On a un peu de Chopin, on a un peu de Debussy, on a un peu de Beethoven, on a un peu de Brahms. Ça, vous partez un peu. Alors, c'est peut-être votre éditeur qui vous oblige comme ça, mais c'est peut-être vous, je ne sais pas.
Non, ça vient de moi.
D'accord.
Ça vient de moi parce que, en fait, je n'ai jamais voulu me spécialiser dans un répertoire parce que ce n'est pas, pour moi, une nécessité intérieure.
Mm-hmm.
Je comprends qu'il y a beaucoup de mes collègues, parmi les plus célèbres, qui préfèrent se cantonner à un répertoire de prédilection, un répertoire qu'ils ont cultivé toute leur vie. Et moi, je me définis un peu comme, disons, omnivore. Et alors, j'ai un éventail très large des musiques, des compositeurs qui m'intéressent, qui me passionnent, qui me parlent, que je travaille à fond. Et donc, si vous voulez, mes enregistrements sont aussi le reflet de cette direction-là. Et là, il s'agit vraiment d'une nécessité. J'ai besoin de ça.
Vous avez, par exemple, Chopin, puisque c'est peut-être celui que vous avez enregistré le plus. Hein.
Oui, sans doute.
Sans doute. Hein. Vous n'avez pas envie de moucher les trous, petit à petit?
Bon, il y a beaucoup de musique que je n'ai jamais jouée.
Oui, je comprends bien.
Mais disons que, encore une fois, ça répond, pour moi, le choix du répertoire à une nécessité intérieure. Ça, c'est quelque chose qui... Ça passe par là. Ça ne passe pas par les choix de votre éditeur. Ça ne passe pas non plus par... une étiquette, entre guillemets, que le public peut coller sur vous, de pianiste romantique ou de pianiste classique ou autre. Et alors, ma vision des choses, elle répond à cette nécessité-là.
Donc, tant mieux que vous ayez un éditeur, un label Alpha, vous enregistrez chez Alpha, qui vous laisse faire ce que vous avez envie de faire.
Oui, bien sûr. Je crois que j'aurais beaucoup de mal à subir
des intégrales.
Des intégrales ou des désirs qui ne me correspondent pas.
D'accord.
Disons donc, je considère que j'ai de la chance, effectivement, que j'ai un éditeur avec qui on peut toujours parler, qu'on a une largeur d'esprit dans les discussions qui fait qu'on peut tout aborder.
Parce qu'en fait, des enregistrements, vous en faites au moins 2 à 3 par an, hein?
Oh. Non, je ne crois jamais avoir fait 3 par an, mais
2, oui.
En tout cas 2, au moins 1 par an. Oui,
d'accord.
Au moins.
Et quand vous enregistrez, vous l'avez joué beaucoup de fois en concert ou aucun lien?
Alors ça, oui. Je crois qu'à une exception de près, je n'ai jamais enregistré quelque chose que je
n'ai pas joué. On ne demandera pas laquelle.
Que je n'ai jamais joué au concert. Ou que je crois qu'il faut arriver à l'enregistrement avec tout un vécu dans l'œuvre qui ne se fait qu'au concert, pas seulement à la maison quand vous travaillez, quand vous vous cherchez dans la pièce. mais surtout au concert.
D'accord. Les concertis aussi, vous en avez fait quelques-uns, les Chopin en particulier, mais bon, on a l'impression que vous ne partez pas vers là non plus.
Alors, bon, ça c'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment trouvé pour l'instant. Je dirais que c'est plus ça qu'une direction voulue de ma part. Bien que je dois admettre que j'ai une préférence pour les récitals, ça c'est clair aussi. Mais il y a ces deux choses-là. J'aimerais beaucoup trouver, par exemple, un orchestre avec lequel je pourrais faire les deux Chopin ou tant d'autres.
Vous m'aviez parlé des Mozart l'année dernière.
Effectivement. Donc,
à la direction, en plus.
Oui, hein, oui. Donc ça reste dans mes rêves et dans les choses que j'aimerais faire un jour, ça c'est sûr.
Alors la direction, vous l'avez beaucoup abordée ou c'est juste une envie pour les Mozart?
Non, alors ça c'est juste une envie et ça serait que pour les Mozart. Je n'entends pas aller au-delà. Parce que
les Beethoven, ils se font seuls.
Oui, ils se font, mais là encore, j'ai moins de nécessité de les aborder à la direction. Je trouve que les pianistes, on est tellement gâtés d'avoir un instrument qui a un tel répertoire que trois vies ne suffiraient pas pour le jouer. Alors, moi, je trouve que... l'idéal de diriger un orchestre un peu dans les Mozart et de pouvoir arriver à cette communion en étant vous, à la fois le chef et le pianiste, c'est quelque chose qui nous fait rêver un peu tous. Mais je n'entends pas aller au-delà.
D'accord. Et aborder aussi le forte piano, ça relève aussi de la même optique. C'est-à-dire que vous avez envie de toucher tout au piano et pourquoi pas le forte piano.
Oui, le forte piano, ça reste pour moi une expérience que je fais de temps en temps. Ça m'arrive de façon un peu sporadique. Je viens par exemple de faire un concert avec Philippe Hervègue et l'Orchestre des Champs-Élysées, qui était une source de très grande joie pour moi. C'était une première rencontre avec Philippe Hervègue dans le concerto de Schumann.
Voilà, d'accord.
À l'auditorium de Dijon. Mais bon, je suis trop amoureux du piano moderne pour me cantonner au piano
alors,
ancien.
Pourquoi vous attaquez alors le piano forte?
Alors, c'est quelque chose qui m'avait été suggéré il y a quelques années par un de mes bons amis qui pensait que je pouvais tenter l'expérience, que ça irait bien, que ça m'irait bien. Et au début, je n'y croyais pas trop, mais j'ai voulu quand même essayer. Et j'ai compris beaucoup de choses par rapport, par exemple, si je pense à Chopin, à la manière dont les œuvres ont été écrites, et à une certaine transparence du jeu, à un sens de l'articulation qui est très particulier sur les pianos anciens, et qui se dégage de la structure de la pièce.
Une énergie aussi qui est
oui,
différente.
Oui, et une énergie, oui. Donc c'était une expérience qui m'a beaucoup apporté.
D'accord. Et vous avez enregistré, c'est quoi, de Chopin avec, comme ça s'appelle
Avec Franz Brueghel.
Oui, c'est ouais. Ça. Alors moi, la première fois que j'ai vu ce disque, j'ai regardé trois fois pour être sûr que ce soit vous. Je me dis, c'est pas possible. Parce qu'il était, carré, Monsieur Brueghel.
Mais c'était un merveilleux musicien.
C'est sûr, c'est sûr.
Alors, c'est quelqu'un... j'ai énormément appris de lui, de sa sincérité. Il était quelqu'un de très humble par rapport à la musique. Et aussi dans ses rapports humains.
Thank you.
Ça me fait penser comme démarche, si vous voulez, celle de René Jacobs, qui souvent, dans ses enregistrements d'opéra, prend des chanteurs non baroqueux et les fait se pousser à fond pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, d'original. Plutôt, alors, je ne veux pas dire qu'il ne parle jamais des baroqueux bien cadrés, mais souvent, il va chercher autre chose. Et souvent, ça apporte justement une lumière, un apport tout à fait original.
Oui, à moi, c'est ça qui me parle, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je cesse de m'intéresser quand je trouve que c'est une vision trop absolue. Je ne comprends pas qu'on veuille faire un absolu d'un courant dans l'interprétation, quel qu'il soit. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis complètement décomplexé par rapport à il y a quelques années où je ne voulais pas jouer Bach au piano.
Voilà, oui. Vous allez venir.
Mais maintenant, je le joue pour mon plus grand plaisir. Et je le joue comme je l'entends, moi, dans mes oreilles, dans mon esprit, dans mon âme. Alors, je me suis complètement décomplexé parce que je trouve absurde qu'on puisse en faire un absolu d'un courant.
D'accord. Alors, c'est marrant parce que, au point de vue proche de nous, je ne vous ai jamais entendu, peut-être que je me trompe, hein, du Prokofiev ou des choses comme ça. C'est pas en vous, ça?
Je joue le deuxième concerto volontiers. Le troisième, un peu moins, et quelques sonates, oui, mais oui. Je n'ai jamais joué ça à Montpellier, non.
D'accord. Non, mais j'ai jamais vu. Et Bartok aussi, vous jouez un peu?
Alors, Bartok, je le joue plus que Prokofiev pour les œuvres solo. Oui, je joue la suite opus 14, très volontiers, parce que je l'adore, la suite en plein air. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la musique du XXe siècle. Et puis j'ai joué les improvisations.
D'accord. Oui. D'accord.
Donc, pas encore les concertis de Bartok.
C'est dur.
C'est sur ma liste. Hein.
Ah oui.
C'est très dur, oui. Oui. Oui, il faut consacrer des longues plages d'études.
D'accord. Donc vous ne faites pas du tout, excusez-moi encore de revenir sur Martha, qui est actuellement Martha Argerich, qui elle est concentrée sur quelques concertis et quelques... Alors, au point de vue soliste ou en duo, en musique de chambre, elle est très vaste. Mais au point de vue concerto, paf, elle est vachement réduite. Il y a des œuvres qu'on aimerait écouter d'elle et qu'elle ne peut pas faire.
Oui, moi j'adorerais, par exemple, c'est un rêve de toujours, d'entendre son quatrième concerto de Beethoven, mais elle ne l'a jamais joué.
Évidemment, c'est ça, tout le monde l'attend, mais elle ne le fait pas.
Oui.
Et il y a une raison à ça, vous avez...
Mais
Je
pense qu'encore une fois, ça répond... Ça doit répondre forcément à un besoin très fort
interne,
que vous avez.
Ouais.
Et en tant qu'artiste, on est toujours assailli par le doute. Et il y a des œuvres qui vous impressionnent, hein, ça
vous
c'est sûr.
Que...
Et je pense que c'est peut-être une raison.
D'accord.
J'imagine, hein, c'est une hypothèse.
D'accord. Alors si on vient au programme du festival, là, alors il faut que vous m'expliquiez la logique du programme. Parce que c'est toujours... Moi, j'aime bien essayer de la comprendre, parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre le fil directeur d'un concert. Donc, voilà. Donc, première partie, Schubert, la sonate 13, et puis Brahms. Voilà. Alors, expliquez-nous la progression là-dedans. Ou alors, peut-être qu'il faut voir par rapport à toutes les œuvres, dont rajouter le Chopin et le Poulenc, je ne sais pas.
Non, je crois qu'on peut voir ce programme comme composé de deux îlots, hein, qui n'ont pas forcément un lien. Ils peuvent avoir un lien sous-jacent peut-être, mais pas forcément très évident. Dans la première partie, nous avons cette sonate de Schubert que je trouve, moi, personnellement, qu'elle commence merveilleusement en récital. C'est une des sonates les plus lyriques qui soit.
Ouais.
Hein.
Mm-hmm.
Elle a tellement de délicatesse, elle a des mélodies qui s'apparentent au lead, hein, de manière évidente. Donc, elle a le ton de la confidence. C'est une sonate intime, mais quand même avec un final qui est très enjoué, qui est plein de verbes, plein d'esprit, qui prépare un peu mais toujours dans la délicatesse propre à Schubert, ce qui va suivre, donc les variations de Paganini. Oui, œuvre.
Oui, c'est difficile.
redoutable sur le point de vue technique, oui. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que c'est une des œuvres majeures de Brahms. Oui. Qu'elle soit presque injouable, ça n'enlève en rien le fait qu'elle a une substance musicale qui est énorme. Ce sont des trésors d'imagination que Brahms déploie là tout au long de ses variations.
C'était un très bon pianiste aussi.
Oui, c'était un magnifique pianiste. Du moins, c'est ce qu'on dit.
Voilà, oui.
Et voilà, mais je pense qu'il faut l'avoir été. Pour composer quelque chose comme ça. Oui.
D'accord. Oui. Alors, la deuxième partie, donc Chopin, on a un nocturne, on a la Barcarolle, magnifique enregistrement d'il y a combien ?
Il y a 3-4 ans.
Oui, c'est ça. Oui. Et le scherzo.
Le troisième scherzo. Oui.
Alors là, la logique, là aussi. Parce qu'un scherzo.
Il y a une logique. La suite Napoli de Poulenc, qui suit le groupe de Chopin, donc se compose de trois volets. Barcarolle, Nocturne et Caprice italien. Et alors j'ai voulu un peu mettre un miroir parce que Poulenc, je n'ai lu ça nulle part, hein, je ne peux pas l'affirmer, mais il me semble qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Chopin en écrivant ces pièces-là. Et il y a quelque chose de très chopinesque, surtout dans le Nocturne. C'est une merveille, ce nocturne de la suite Napoli.
D'accord, oui.
Et les caprices italiens, on pourrait dire que c'est une sorte de scherzo. En tout cas, il l'est pour moi, bien que ce ne soit pas le titre. Il y a quelque chose de fantastique, d'enjoué. Il a énormément de verve. Il est à l'opposé dans l'esprit du scherzo de Chopin, du troisième, parce que c'est une œuvre forcément très très intense et dramatique, celui de Chopin. Mais il y a une filiation.
D'accord.
Alors j'ai voulu mettre un miroir Chopin et Poulenc, parce que ce sont pas. Quand on pense à Poulenc, on pense pas forcément à Chopin.
Ah oui, c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Mais d'ailleurs, j'étais étonné.
Et il me semble qu'il y a lieu de penser à Chopin.
D'accord.
Vous voyez, parce que encore, si on revient vers le caprice italien. Il y a au milieu de l'œuvre, du troisième volet, il y a une des mélodies les plus géniales que Poulenc il ait jamais écrite, à mon sens. Et à mon avis, il a pensé à Chopin.
Oui, il ne peut pas ne pas y avoir pensé.
Au bel canto.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que Poulenc, vous en avez joué beaucoup de Poulenc ?
Non.
C'est marrant, je ne vous sens pas dans cette Poulenc. Bon, c'est la légèreté. C'est pas que vous soyez lourd, hein. Mais c'est la légèreté. C'est vraiment la musique française. Si tant est que le mot ait un sens. Et c'est marrant, je vous voyais pas tout à fait. Je vous voyais pas là-dedans.
Alors, c'est vrai que je ne les joue pas beaucoup. J'ai joué souvent le concerto à deux pianos. Et
oui,
cette suite-là.
Ça, c'est un chef-d'œuvre.
Oui, ça, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que je le joue assez peu. Par contre, cette suite Napoli, je l'ai à mon répertoire depuis que j'avais 17 ans.
Thank you.
Vous avez donc écouté M. Nelson Gerner, qui parle remarquable français, qui est tout délicat. Nous avons écouté également, comme petits morceaux musicaux qui s'entrelaçaient avec l'interview, du Beethoven, la Bagatelle opus 126, les Bagatelles opus 126, c'est-à-dire les numéros 1 et 2 sur les 6 bagatelles de cet opus 126, que Nelson Gerner a enregistré chez la firme Alpha. Et ensuite, vous avez écouté du Franck. Donc César Franck, musicien franco-belge, voilà, on dira. Donc vous avez écouté un extrait de la sonate pour violon et piano, c'était le quatrième et dernier mouvement. Nelson Gerner, à nouveau un disque alpha, et Nelson Gerner accompagné le merveilleux pianiste Teddy Pavravi. Donc voilà, ceci termine notre émission pour aujourd'hui. Et donc je remercie Benoît à la technique, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, ne quittez pas FM+, nous avons comme toujours dans les radios associatives besoin des auditeurs. Bye bye, à bientôt.